Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Santé Mario!
What? Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Il est espagnol, Rafael Nadal!
Hello, c'est Max et bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Comme chaque mardi à 17h, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Épisode spécial JO avec le porte-drapeau de la délégation française paralympique, la légende de tennis fauteuil, Stéphane Houdet. C'est un délice de retrouver Fanou quelques mois après notre premier épisode, que je vous encourage vivement à écouter si ce n'est pas encore fait. Steph nous explique aujourd'hui comment il est devenu porte-drapeau et comment ce dernier est élu à chaque nouvelle Olympiade avec tous les codes que ça implique. Notre invité nous fait vivre l'expérience au cœur du village olympique. Je vous garantis qu'entre Pékin, Londres et Rio, vous allez voyager. Il nous transmet ses émotions lors de ses 4 médailles, ses rencontres incroyables qui font aussi de lui le champion qu'il est aujourd'hui. Cette première partie est un régal. N'hésitez pas à envoyer vos messages d'encouragement à Steph sur Instagram, où il est très présent. Bel été les légendes, bon JO et bonne découverte à tous. Alors c'est parti, l'incassable Stéphane Houdet. Je suis hyper heureux, Steph, d'être avec toi pour cette seconde fois. Donc ça n'est pas la deuxième partie, c'est une partie spéciale Jeux Olympiques. Pour rappel, tu as été 4 fois médaillé aux Jeux Paralympiques, médaille d'or à Pékin 2008 en double messieurs avec Michael Jeremias, médaille d'argent en simple messieurs à Londres et en bronze, en double, toujours avec Michael en 2012. Et l'or à nouveau, en double en 2016 à Rio, aux côtés de Nicolas Pfeiffer. Tu as également remporté 23 titres du Grand Chelem en simple et double confondu. Tu as été numéro 1 mondial de tennis en fauteuil. Tu as été plébiscité du coup par le public pour être porte-drapeau de la délégation française avec la judoka malvoyante Sandrine Martinet lors de la cérémonie d'ouverture des prochains JO paralympiques de Tokyo du 24 août au 5 septembre prochain. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter l'émotion peut-être que tu as ressentie en étant nommé à ce poste assez incroyable?
Oui, d'autant plus que c'était un jeu de montagne russe, puisque tu dis que j'ai été plébiscité par le public, mais au départ, c'était un choix de la Fédération française de tennis, en fait, qui m'avait proposé et prévenu en me disant, voilà, Steph, on souhaiterait que tu sois notre candidat, parce que les fédérations pouvaient présenter des candidats pour être le porte-drapeau de la délégation française en binôme pour les Jeux de Tokyo. Il se trouve que, étant donné que c'était Michael, un autre joueur de tennis qui était le porte-drapeau en 2016, évidemment, moi, je n'étais pas candidat. Tout seul, je me disais, bon, bah, il faut passer la balle aux copains et ce ne sera pas à nouveau un joueur de tennis. Mais comme ils ont adopté un nouveau mode d'élection qui n'était plus un comité restreint, mais le public, la Fédé Tennis a dit go, nous on pense que tu es la bonne personne. Et le comité paralympique a entériné la décision en disant bah, on laisse au public la liberté de choisir. Notre but, c'est de faire connaître les sportifs et vos disciplines. Donc, pas de restriction pour cette année.
Et tu sais combien de personnes ont voté ?
40 000 personnes à peu près ont voté.
Ouais. Par quel biais ? Ça se passait où ?
Alors, c'était un site internet. Donc là, je me rends compte que toi, tu n'as pas voté.
Et là,
un site internet qui s'appelait portondrapeau.fr était entièrement dédié à ce vote. N'importe qui avait un numéro de téléphone français pouvait voter. Et les Français de l'étranger, quelques-uns ont pu voter. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit avec le code international de leur numéro, puisqu'il y avait aussi un candidat qui était néo-calédonien et qui est un athlète, un spécialiste de courses en fauteuil roulant. Donc tout le monde pouvait voter et tout ça pour revenir au fait que les émotions ont été des montagnes russes puisque à la suite ma présentation par la Fédération française de tennis en tant que candidat, le comité paralympique a créé un groupe WhatsApp qui regroupait les 7 candidats, donc 3 hommes et 4 femmes, pour échanger sur les modalités du vote, les process de communication qu'ils allaient mettre en place, les vidéos, le contenu, les règles. Et donc, on a beaucoup échangé entre nous. Ça a duré un peu plus d'un mois et 3 semaines pour le vote. Toujours est-il que dans ce groupe, finalement, on a aussi eu des visioconférences et le directeur du comité paralympique, qui s'appelle Élie Patrigeon, nous a tous informés que un samedi, donc ça peut être le samedi 3 juillet, à la suite de la fin des votes au 30 juin, eh bien, il nous appellerait un par un pour nous prévenir de qui étaient les heureux élus. Sachant que moi, je partais à Wimbledon le lundi. Et le jeudi, j'étais à l'entraînement. Et entre deux exercices, je me suis arrêté pour boire un coup. Et mon téléphone est toujours sur silencieux. Et simplement, comme il était à côté de ma bouteille, j'ai vu Élie Patrigeon s'afficher. Donc, c'est notre directeur. Et là, ben, je me suis dit, mince, il cherche à me contacter. En général, ce sont des gens qui nous appellent que quand ils ont des choses importantes à nous dire. Et comme moi, j'étais quand même dans l'organisation de Wimbledon, je me suis dit, bon, ben, je décroche parce que, il a quelque chose d'important à me dire. La connexion est mauvaise. Et finalement, ça raccroche. Je rappelle. Et pendant ce temps-là, ça tourne dans ma tête et je me dis, bon, bah, s'il essaye de m'appeler jeudi plutôt que samedi, 2 jours avant, c'est pour me dire, écoute, Steph, ne change pas ton billet de train, ton Eurostar pour partir à Wimbledon. Je te le dis en amont, c'est pas toi. Et comme ça, tu gardes le secret comme ça a été demandé. Mais toujours est-il que, voilà, je t'informe que ce n'est pas toi. On se rappelle. Et là, il me dit, ben voilà, Stéphane, en fait, je voulais te dire, que tu avais été élu par le public, et que tu seras notre porte-drapeau. Et en même temps, comme il y avait le secret, mais oui, mais c'est ça le problème, c'est que tu as envie, mais comme c'était sous le sceau du secret, et que mon sparring partner qui s'appelle Nicolas Sarrazin, qui était à côté de moi, enfin à côté de moi, de l'autre côté de la chaise d'arbitre, eh bien j'étais complètement bloqué en me disant, mais mince, ils nous ont dit qu'il fallait le dire à personne, mais vraiment personne, parce qu'ils nous avaient expliqué un truc à propos des secrets en disant que, quand on cherchait un secret, si une personne le savait, 35 personnes le savaient.
Wow.
Donc, si 35 personnes le savent, bah, ça fait 35 au carré. Et très vite, tu fais le tour de la Terre finalement avec ton secret. Et donc j'étais complètement coincé dans mon expression. Et je pense que Nicolas se rendait compte que je disais peu de mots, mais qu'il se passait un truc. Et Ellie me dit, bon, ben bah, voilà. Faut que tu tiennes jusqu'à lundi parce que c'est très important pour nous. Ce sera une annonce sur le plateau du journal de 20h de France Télévisions. Nous avons signé des droits avec eux et une exclusivité. Donc, si on veut vraiment que ça se passe bien et que ça puisse se reproduire, il faut garder le secret. Alors, je dis, ben, ok, très bien. On était prévenu des règles, mais je pense que Nicolas, qui est pas loin, a dû se rendre compte. Donc, oui, il fait partie des 35 probablement. Toujours est-il que voilà, donc nous on se l'est dit avec beaucoup de modération aussi parce qu'on était sur le cours technologique de la Fédé. Et le cours techno de la Fédé, ben, c'est un cours où il y a plein de caméras, il y a des micros, tout est enregistré. Et donc bon voilà, on a tenu notre langue, d'autant plus que moi je partais le samedi matin pour un mariage et ma femme était témoin et maître de cérémonie. Et évidemment, beaucoup de gens pendant le mariage posaient la question, avaient voté, ils disaient alors, c'est quand, c'est toi, c'est pas toi, vous ne saurez quand. Et donc, on a toujours répondu, ben, on saura lundi soir
Ah,
au
c'est
journal de
énorme.
20h. Alors, ma femme, toujours avec malice, elle disait aux gens, elle disait, mais regardez bien le journal de 20h lundi soir. Et je disais, mais si tu dis aux gens de regarder, c'est que quelque part, tu leur donnes la réponse. Mais bon, on a tous les deux tenu notre langue. Le soir, quand je l'ai retrouvé, on s'est pris dans les bras et c'était nos premières émotions ensemble. Et puis ensuite, le lundi matin, finalement, je vais arriver au dans un hôtel, dans un espace qui était réservé par le comité paralympique pour qu'on rencontre la nouvelle présidente du comité olympique. C'était notre première rencontre avec Brigitte Henriques, donc la présidente, mais au départ joueuse de foot, passionnée de sport. Et en arrivant, j'ai vu Sandrine Martinet. Et donc, on s'est pris dans les bras tous les deux parce qu'on a beaucoup d'émotions associées sur les Olympiades auxquelles on a participé. Et voilà, c'était ce jeu de montagne russe, sachant que pendant toute la journée, il fallait aussi qu'on garde le sceau du secret et qu'il y avait un vote du comité paralympique qui se faisait à côté. Donc, il y avait plein de monde et nous, on nous exfiltrait à chaque fois, on nous cachait, il ne fallait pas qu'on voie les gens, que personne puisse deviner que c'était nous. Ensuite, on partait faire un shooting photo pour la présentation justement du contenu des porte-drapeaux, que là on s'est retrouvé dans un premier temps avec Samir Aït Saïd et que nous on n'a pas pu s'empêcher de faire les andouilles, puisque Samir, quand il s'est bien cassé la jambe, ben moi je l'ai imité en faisant la même chose avec ma prothèse. Donc on a quelques photos rigolotes où j'ai mis mon genou à l'envers, comme lui l'a fait involontairement au cours de son saut pendant les derniers jeux. Et puis, il nous a rejoint par la suite Clarisse,
Yes.
puisqu'elle était occupée le matin. Et on a passé une journée incroyable, tous les quatre, à bien se marrer, à produire du contenu, faire des photos. C'était très, très agréable dans un studio photo un peu caché, mais c'était une belle journée.
Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite. Ça permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez que vous avez accès à deux formations gratuites en description de l'épisode. Une première pour savoir ce que la stat dit de votre jeu, c'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barraud. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin vous permettre d'arrêter de mouiller sur un court de tennis. C'est cadeau, c'est pour nous. Allez, on y retourne. Déjà, félicitations et merci pour nous le raconter avec autant de d'émotion, comme si c'était la première fois que tu le racontais, c'est une chance.
Presque, à toi, oui.
C'est sympa. Mais vraiment, qu'est-ce que tu as ressenti? Quelles images tu as eues? De la fierté, j'imagine, évidemment, mais vraiment au fond de ton cœur, quoi, ça, qu'est-ce que ça t'a évoqué à ce moment-là?
Je pense que c'est un immense témoignage de reconnaissance au départ donc de la fédération, des personnes qui m'ont choisi au sein de la fédération, et par la suite un témoignage de reconnaissance de la part du public, parce que sur 40 000 votants, si j'ai essayé de faire voter, et ma femme a été très active sur le sujet, tous les gens qu'on connaissait, on est loin des 40 000, donc ça veut dire qu'il y a des gens dans leur coin qui ont décidé, sans être influencés par le fait de nous connaître, de voter à nouveau pour un joueur de tennis. Donc, c'est marrant parce que je ne sais pas si ça a été un grand changement, mais en tout cas, depuis, j'ai à plusieurs reprises rencontré des gens qui m'ont plus reconnu dans la rue et qui m'ont dit: Ah, c'est vous, c'est vous, c'est vous, soit avec le nom, soit parce que j'avais un sac. Alors, c'est vrai que quand je me balade en short avec ma prothèse, avec un sac Wimbledon sur le dos, on peut imaginer. Mais ça a été encore mon cas hier en rentrant du British Open. Et un jeune qui est monté dans le train, qui avait un masque Tour de France, alors que moi j'étais en train de regarder l'arrivée de l'épreuve dames de cyclisme sur mon téléphone. On a regardé ensemble et puis on a commencé à échanger. Il a dit: Mais vous avez joué à Wimbledon? Certainement en voyant le sac. Et puis par la suite, oui, ah, mais vous allez au jeu? Ah, mais oui, c'est vous, ça y est, je vous reconnais, vous êtes le porte-drapeau. Alors, les gens n'ont pas toujours le nom, mais en tout cas, il y a un bel engouement pour les
Trop bien.
sportifs autour du mouvement.
C'est donc ta quatrième Olympiade. Tu avais 33 ans donc pour tes premiers Jeux à Pékin. Avant de nous partager tes émotions lors de la Marseillaise suite à la médaille d'or en double, quelle sensation, quel souvenir tu gardes de cette toute première Olympiade? On va essayer de parcourir les trois auxquelles tu as déjà participé. Qu'est-ce que tu te souviens du coup de Pékin?
Alors, premier truc quand même, je suis désolé, mais je vais remonter à 1980.
Ok.
Et parce que pour moi, c'est mon premier vraiment souvenir de jeu. Et il se trouve qu'à l'époque, je joue un tournoi qui était le tournoi du Longeron. C'est un tournoi qui était très connu dans la région des Pays de la Loire, où tous les jeunes se retrouvaient, parce que un grand monsieur qui s'appelait Joseph Grimaud, qui était aussi le patron d'une société de textile qui s'appelait à l'époque Barbe Bleue, était organisateur, directeur du tournoi, et nous faisait des remises des prix incroyables. On était gamins, on avait des remises des prix, de cadeaux, de lots, qui étaient incroyables. Et il se trouve que cette année-là, en 1980, il m'avait accueilli chez lui, et j'ai dormi dans la chambre de son fils, et lui rentrait des jeux de Moscou. Et c'est la première fois où je fais un lien avec les jeux, parce que dans cette chambre, il y a tous les, ce qu'on appelle aujourd'hui des goodies, je sais pas comment on dit en français,
Ouais,
enfin, se moquer de moi,
des petits produits dérivés
voilà, des produits
d'événements, quoi.
dérivés des jeux.
Ouais.
Et donc, tu as les mascottes, tu as des autocollants, tu as des peluches, tu as tout ce que tu peux imaginer avec Moscou, les anneaux, ce petit symbole rouge. Et ce sont des jeux qui ont été boycottés. Toi, tu n'étais pas né à l'époque, mais les jeux ont été boycottés et on en a certainement vu moins que les précédents et encore moins que les suivants. Mais là, je faisais un lien réel avec, ah, mais c'est une épreuve incroyable qui a existé, qui a regroupé autant d'athlètes et qui est vue par autant de téléspectateurs. Et donc, Moscou, quand je me retrouve à Pékin, c'est un peu, alors c'est un rêve qui forcément est modifié parce qu'à aucun moment j'ai imaginé gamin rêver de participer à des Jeux paralympiques, mais de participer à un événement d'envergure mondiale. Bah, le lien que je fais entre, à l'époque, on appelait ça l'URSS en plus, hein, je crois que c'était écrit sur les maillots CCCP, et voilà, c'est pas très loin de Moscou, l'ex-URSS, c'est pas très loin de Pékin. Et je débarque avec des yeux de gamin dans un stade. Alors les émotions, elles sont autour de d'abord le village. Le village, ce qui est incroyable, c'est que quand tu débarques dans ce village entièrement dédié au sport, premier truc, c'est que tu as toutes les nations et il n'y a pas d'argent. Alors, quand je dis il n'y a pas d'argent, on est tous très conscients qu'il y a beaucoup d'argent autour de
Aussi.
l'organisation des jeux. Mais en fait, à l'intérieur du village, tu es dans un mini pays ou dans un mini sur une mini planète puisque tu as toutes les nations qui sont représentées, mais il n'y a pas de transaction économique. On se balade nous avec notre accréditation qui nous permet d'obtenir tout ce qu'on veut. Mais c'est pas uniquement les repas, les boissons, les préservatifs. J'ai vu que les gens parlaient beaucoup du village comme étant une zone d'épanouissement aussi de ce côté-là. Il se trouve que tu peux aller chez le coiffeur, tu peux aller chez le médecin. Tu as plein de pays pauvres qui se font faire des fauteuils, des lunettes de vue. Tu vas chez l'ophtalmo. Enfin, tu es vraiment tout ce que tu peux imaginer est là pour toi et sans transaction financière.
Et t'as, du coup, c'est quoi? C'est le comité qui te crédite directement ou c'est toi qui mets de
Non, non,
l'argent
non.
sur...
Non, 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 tu vois rien. Tu vois rien du tout. C'est-à-dire que ton accréditation fait que une fois que tu es rentré dans le village, tu peux aller au McDo, tu peux aller au restaurant, tu peux aller chez le médecin. Tout est tracé parce que tu as un numéro, un code barre qui
Ouais.
dit, bah, OK, lui, c'est bon. Et dans l'enceinte du village, il n'y a pas d'argent.
Et
Donc, tu te sers.
c'est all
C'est
inclusive.
all inclusive, si tu veux.
C'est
D'ailleurs, c'est
donc.
assez marrant de voir les athlètes, souvent les judokas, parce que les judokas sont sur ont des diètes pour leurs épreuves qui sont strictes et leurs épreuves ne durent qu'un jour. Donc, ils sont hyper stricts jusqu'à l'épreuve. Et le lendemain, tu vois une queue immense au McDo et ils s'enfilent, bah, comme c'est all inclusive, tout ce qu'ils veulent. Et c'est pareil dans le village, puisque dans le village, tu as aussi toutes les cuisines du monde. Donc, tu peux choisir de manger chinois, de manger italien, de manger européen, de manger.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Africain.
C'était quoi ton petit kiff à toi, au resto ou autre hein?
Aujourd'hui, je suis très. Ce que j'adore, c'est la cuisine thaï, épicée. J'aime beaucoup les soupes. Et je crois qu'à Pékin, j'aime aussi beaucoup ce qui est italien, mais pas les pizzas pendant les Jeux, même si c'est un peu mon plat préféré. J'aime beaucoup le couscous. Donc, je devais faire des pâtes, de la soupe, des salades. Tu peux composer ta salade. De l'eau pétillante, ce que je préfère. Aucune boisson sucrée, mais t'as tout. Et voilà.
En simple, t'avais fait quoi, juste petite question?
En simple, je perds en quart.
Ok.
Ouais, je perds en quart. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps les classements. Et il me semble que j'étais quand même. Mais ça m'étonne parce que je me suis vu trois mondiales, mais à mon avis, trois mondiales en 2008, ça doit être à la fin de l'année. Et les Jeux au mois de septembre, je vais être un peu plus loin. Parce que je ne suis pas déçu de ma place. Et si j'avais été 3, je l'aurais été certainement un peu plus. Parce que je suis en train de découvrir. Et je découvre tellement que là, en quart, je joue sur le central pour la première fois des Jeux. Et ça, c'est une particularité qui est importante pour tous les joueurs. Ce court central était moins usé que les autres courts, était plus rapide. Et on a joué avec un filet de simple. Donc là, autant dire que je regarde tous les matchs pour vérifier comment ça se passe sur les différents cours. Mais quand tu joues avec un filet de simple, c'est-à-dire sans piquet, tu as les poteaux qui sont des poteaux simples, qui sont à l'intérieur du couloir de double, eh bien, tes repères visuels sont légèrement modifiés. Et comme tout allait plus vite, j'ai mis du temps à m'adapter. J'ai joué un joueur qui jouait vite. J'ai perdu contre un Hollandais. Je crois qu'il a fait 4. En plus, il a perdu la... Ou il a eu la médaille de bronze, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, je venais pour découvrir et j'ai perdu en quart. Et à ce moment-là, je continuais à apprendre. Et le plus important, c'était effectivement l'épreuve du double, où on avait une vraie chance.
Et tu te revois comme un jeune loup à cette époque-là, à 30 ans?
Ouais, non, mais complètement. Mais en fait, j'ai cet âge-là, mais je découvre complètement le tennis fauteuil. Je ne sais pas me déplacer, je ne suis pas sûr de mon fauteuil roulant, et je ne suis pas sûr de la pression de mes pneus. On a un premier match de double où je joue avec des boyaux, et je crois que ça fait un mois seulement que je joue avec des boyaux. J'ai un boyau qui éclate, on a du mal à le faire réparer, sachant qu'on a un temps limite pour réparer, et que finalement, c'est 20 minutes pour nous, et que l'arbitre à 19 minutes dit, bon les gars, il vous reste une minute, sinon c'est scratch, c'est terminé, plus de fin de la partie. Donc c'est un copain qui en courant, me prête sa roue, parce que les gars n'arrivaient pas à réparer ma roue. Je suis un... Bon, naturellement, je suis un peu à l'arrache, mais là, je suis champion du monde de l'arrache et je suis vraiment en phase d'apprentissage. Donc, je découvre, et à tel point, je découvre que la maman de Mickaël m'avait dit, si jamais vous êtes sur le podium, Stéphane, il faut absolument que tu aies un fauteuil roulant pour que vous puissiez aller ensemble avec Mickaël sur le podium. Et si tu regardes les images, j'ai un fauteuil roulant de ville que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, qui est plus large que moi, je ne sais pas comment faire, je suis tout petit, c'est la découverte.
C'est énorme.
Et justement, c'est ça qui fait que c'est important quand on parle du porte-drapeau par la suite, parce que quand tu es dans une phase de découverte comme ça, tu consommes de l'énergie inutile, parce que tout émerveille, et tu es tellement émerveillé que tu cherches l'émerveillement. Donc, tu fais le tour du village. Et moi, je suis émerveillé parce que je vois... Donc, dans le village, chaque pays a un bâtiment, une zone qui lui est réservée. Et par exemple, il se trouve que l'Israël est pas très loin de l'Iran, de l'Irak, et que tu regardes et tu vois qu'il y a des gardes du corps qui traînent, qui sont en civil, qu'on t'a raconté qu'il y avait des tireurs d'élite qui étaient sur les toits. Donc, tu sais pas, donc tu vas voir... Et tu te sens, t'es quand même dans un univers de paix, hein. La seule bagarre, elle est sur les aires de jeu. Mais t'as cette excitation, donc tu vas voir partout, tu te dis, ah tiens, là ce sont les Russes, là ce sont les Chinois. Ah, mais les Chinois, ils ont deux bâtiments, mais ils sont combien? Ils sont trop nombreux. Ah, mais eux, ils sont plusieurs dans le même bâtiment. Alors c'est quoi comme pays? Ah ouais, je le connais pas. Et puis, tu regardes, moi j'adore, depuis que je suis gamin, regarder les drapeaux, essayer de comprendre, d'apprendre les drapeaux. Là, quand je regarde la cérémonie d'ouverture des jeux, maintenant je le sais, mais c'est l'ordre alphabétique japonais qui est pris à l'époque, c'était l'ordre alphabétique chinois. Et en avant-dernier, c'est toujours le futur pays organisateur. Donc là, c'est pour ça que la France est passée avant-dernier, et sachant que le pays organisateur est dernier, donc t'as le Japon. Mais au départ, tu suis, puis tu vois Cameroun, Côte d'Ivoire, Chine, puis plus rien, et puis après, tu retrouves Costa Rica. Tu te dis, mais je comprends pas, c'est quoi l'ordre alphabétique? Et en fait, c'est ça, c'est l'ordre alphabétique du pays organisateur, même si
D'accord.
la langue des jeux reste le français.
La
Donc voilà,
Marseillaise,
tous ces émerveillements. La Marseillaise, ouais.
de cette médaille d'or. Et puis, au passage, tu disais, j'étais le champion du monde de numéro
Ah
un mondial de joueurs à l'arrache. Vous arrivez à gagner la médaille d'or en étant en phase de découverte, avec du matos à peu près. Enfin, ça paraît fou quand même de
ouais, mais
s'en rendre.
moi, c'est moi, je découvre. Michael, il connaît le jeu depuis plus longtemps. Et en même temps, je pense que c'est important parce que finalement, ma naïveté de l'épreuve et ma naïveté dans le jeu m'a donné une sérénité, une confiance en nous. Parce que quand on le relit par la suite, Michael avait déjà vécu des jeux, était déjà passé à côté de la médaille d'or, et je pense que il était plus conscient qu'il est. Alors depuis le début, il me disait, tu verras, médaille d'or, c'est complètement différent de tout le reste. Donc il avait ça dans la tête, c'est qu'une médaille d'argent, une médaille de bronze, ça comptait pas, qu'il y avait de la Légion d'honneur associée, qu'il y avait de la presse associée, que c'était un vrai changement. Moi, je me rendais compte de rien. Donc j'y allais franco, et cette naïveté, je pense, nous a servi aussi.
Et vous êtes devenu méga ami après ça. Enfin, ça vous a rapproché follement, enfin de ouf. Ou vous étiez déjà très très pote, très complice?
Alors, depuis le début, on est hyper complices, mais ce que je disais souvent, c'est qu'il y en avait un qui disait noir et l'autre qui disait blanc, tout le temps. Et donc, on était tout le temps en train d'argumenter pourquoi on pensait différemment, mais on se le disait. Et notre idée, c'était de faire du gris et de faire que notre gris soit doré pour aller chercher l'or.
C'est
Donc,
beau.
ça, on l'a super bien fait. Et en revanche, par la suite, on l'a très mal fait à Londres, puisqu'on s'est éloigné. Et on n'a pas su se retrouver. C'est complexe au tennis parce qu'en fait, on est concurrents. Au début, moi, je débarque, donc je pense que Mickaël ne me voit pas comme un adversaire possible en simple. Et puis, très vite, je le deviens et je passe devant. Et après, je perds plus. Et on avait le même entraîneur. Mickaël, il a besoin d'exclusivité. Et ça a été difficile pour lui parce qu'en plus, il jouait beaucoup moins que moi, beaucoup moins souvent. Souvent, il faisait des saisons 6 mois par an, et ensuite il faisait autre chose. Et après les Jeux, quand moi je suis monté, je suis devenu numéro en 2012, il n'était pas dans les 8 premiers du classement mondial. Donc je ne jouais pas forcément en double avec lui, puisque quand tu joues les Grands Chelems, il faut que tu garantisses un partenaire de double. Donc souvent, j'ai joué avec des joueurs étrangers. Lui a beaucoup joué avec Nicolas tout 2011, et finalement Nicolas se blesse. Pardon, il se blesse en 2012 à Roland-Garros, juste avant Roland-Garros. Il met un coup de poing dans un mur et il se blesse au poignet. Il va recommencer qu'à Wimbledon et il n'est pas encore au niveau. Et donc l'entraîneur va choisir en dernière minute un peu que la paire ce sera Mickaël et moi. On essaye de se retrouver, mais Mickaël est persuadé que moi je suis concentré à 100% sur le simple, parce que je vais jouer la finale du simple le lendemain de notre demi-finale de double, de la petite finale du double. Et moi je suis persuadé qu'à ce moment-là, il n'a pas le niveau pour qu'on aille les chercher. Donc,
Et du coup, c'est tendu sur le
et
terrain à ce moment-là, entre
ouais,
vous?
un peu, ouais, quand même, parce que je pense que on fait le boulot, mais on ne sait pas aller se chercher quand ça ne va pas. Et ça, c'est important dans une équipe de double, c'est quand ça va pas, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir être proche et se parler. Et si tu imagines toujours que c'est la faute de l'autre, ça ne le fait pas.
Chaud. Tu
Et
m'as pas
donc là,
dit
ça ne l'a pas
si
fait.
tu m'as pas dit si tu avais versé une petite larme à Pékin, quand même.
Non, pas du tout. Non, alors là, à Pékin, je suis vraiment. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, tiens, c'est bien. Ah, on se marre. En plus, Mickaël, c'est un showman. Donc, il se déshabille sur le court. On fait le tour. On est dans la joie. Et on va prendre une douche, on est à poil tous les deux avec les copains qui sont en train de filmer ou de faire des photos. C'est la fête. Il n'y a pas de n'y a pas de. Je pense qu'en simple, ça aurait été un peu différent parce qu'en simple, tu te poses, tu es tout seul, tu es dans ton truc. Là, tu es à deux, tu es en train de. Ouais, tu es en train de faire le zouave.
Ouais, c'est bon ça.
Donc, ouais, il n'y a pas eu d'alarme. Et il n'y aura pas de larmes non plus à Rio, certainement pour les mêmes raisons.
Okay.
On est deux, mais il y a d'autres émotions, je te raconterai tout à l'heure.
Concernant Londres, t'as une anecdote qui te revient en particulier?
Ouais, peut-être, ouais, parce que en fait, je gagne mon premier grand chelem à Roland-Garros en 2012. Donc je bats Shingo Kumida en finale. Je sauve deux balles de match. Je mène 6-4 au tie-break du troisième et je gagne 8-6. Je termine. Non, il termine sur une double faute, pardon. C'est l'année d'après que je termine sur un ace. Et je lui passe devant. Donc je deviens numéro un mondial. Je pars au jeu, je suis numéro un mondial. Et là, pendant les phases d'entraînement, pour la première fois, je crois, on peut parier sur le tennis fauteuil. Et donc les Anglais qui sont fans de paris ont la possibilité sur les apps, sur les sites internet de parier. Et là, il y a deux gars dans le public qui me voient à l'entraînement et qui me font hey, « Eh monsieur, vous savez, on a parié sur vous, on a parié sur vous, hein, il faut gagner, il faut gagner. » Et évidemment, j'imagine, les gens ne connaissent pas bien le tennis fauteuil et se disent « Bon, bah, le mec, il est numéro 1, on m'a parié sur le numéro 1.
Ouais.
» Et moi, je pense qu'il y a prescription, mais forcément, on n'a pas le droit de commenter, de dire quoi que ce soit sur les paris. Et je dis au gars, ouais, merci les gars, c'est super, hein, mais mettez quand même une pièce sur le japonais.
Au cas où.
Au cas où. Et puis, ouais, voilà.
Bon ça.
Bon, et 2012, si je ne dis pas de bêtises, dans les autres anecdotes, ouais, c'est ça, hein, c'est l'année d'Oscar Pistorius aussi. Hein.
Ouais.
Donc, nous, il se trouve qu'on joue la finale assez tard, le soir, la nuit tombe. Et au moment où la nuit tombe, je crois que les finales de l'athlé sont 19h ou 20h. Et on sent vraiment une migration, une partie du stade tennis, alors pas du court central, mais du stade de tennis, et les gens qui partent vers l'athlé.
Ah ouais.
Et l'athlé, c'est, je me souviens plus, mais je me demande, c'est pas un stade de 80 000 personnes, archi comble, et on entend les clameurs. En fait, même pendant qu'on joue, par la suite, on entend les clameurs. Donc, on imagine, je sais pas, on se dit, ah tiens, record du monde, médaille d'or. On entend tout ça. Ah bah si, attends, j'ai une autre anecdote incroyable. C'est qu'en fait, à la suite du simple, contrôle antidopage. Je passe dans la zone mixte, la zone de presse, et contrôle antidopage. Et ça dure une éternité parce que, bon, les émotions font que j'arrive pas. À donner ce qu'ils veulent, c'était un prélèvement urinaire. Et quand je sors du stade, il se trouve que le stade est vide, mais vide comme jamais, c'est-à-dire qu'ils ont tout déménagé, que les fauteuils roulants, il y en a plein qui sont partis, c'était le dernier match, et la sécurité a migré, et ma famille a été virée, tout le monde a été viré, tout le monde est dehors, et moi, je ne peux plus sortir. Et je suis obligé de faire un très très grand tour pour rejoindre ma famille qui est juste derrière le portail, en fait, que j'aurais pu voir s'ils étaient là, mais tout le monde est perdu et on ne sait pas qui est où. Je pense qu'en plus, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque pour nous joindre comme on voulait en Angleterre. Enfin, je me souviens que voilà, je suis perdu, je vais retrouver tout le monde qui a déjà commencé à faire la fête peut-être 2 heures après. Et
Ok,
là, je viens de
ah
manger
ouais.
ma première pizza à l'extérieur du stade, ouais,
Allez, là, on va se
des
rattraper.
retrouvailles. Voilà.
Pas trop deg de faire finale, du coup, et de passer à côté de l'or, en simple.
Ah, c'est sûr que là, tu as envie, tu as Marseillaise. Et en même temps, ah, c'est le plus grand monsieur de notre sport. Je fais un bon match. Je m'étais préparé avec les judokas qui m'avaient aidé à aborder ce match comme un vrai combat de judo. En plus, je joue un japonais, donc on est vraiment dans cette dynamique. Donc, je veux dire que j'ai donné le meilleur de moi-même, qu'en déplacement, je suis moins fort que lui, et puis je suis tombé sur plus fort que moi. Donc, c'est une médaille d'argent qui vaut de l'or contre un mec exceptionnel. Et puis voilà.
Et
Donc, ouais.
juste les judokas, tu te souviens la conversation que tu as eu avec eux pour préparer le match, très rapidement, ce qu'ils ont pu te conseiller, quoi?
Ah oui, alors bon, alors déjà, c'était toute la quinzaine, on était ensemble, on faisait
Ok.
de la visualisation, on était tous ensemble avec la voix du coach, du meneur qui s'appelle Marc Fleuret, qui est retiré du judo aujourd'hui, mais qui nous dynamise, qui nous met dans l'ambiance. Ça, c'est toute la semaine. Et moi, le jour de la finale, il est avec moi dans le vestiaire. Et le gars, il te regarde dans les yeux et il dit, oh, Stéphane, il te prépare. T'es prêt. On a tout fait pour en arriver là. Maintenant, c'est le match. Tu as deux, trois trucs à penser. Ouverture de ta cage thoracique au service. Tu donnes le meilleur de toi-même. De toute façon, tu es prêt. Et puis maintenant, c'est le combat. Et tu vas au combat. Et les combats de judo, c'est, je sais plus, mais c'est 1,30, je crois. Ou, enfin, c'est hyper rapide. Et donc là, le tennis, c'est longue haleine. Mais il se trouve que ses deux fils jouent au tennis. Donc, il revient sur ça. Il dit, ce sont des petits combats successifs. Tu te remets bien. Et honnêtement, je commence le match. Je suis bouillant. Et il m'a énormément aidé. Ça, c'était fantastique.
J'ai des frissons, c'est incroyable.
Ouais.
Ça doit être des rencontres phénoménales, les Jeux Olympiques. J'espère que vous avez aimé cette première partie spéciale JO avec Fanou. Écrivez-lui un message sur Insta ou LinkedIn si c'est le cas. Et si vous voulez nous aider à grandir, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un avis sympa ou un like et un commentaire cool sur YouTube si c'est l'endroit où vous consommez notre contenu. Un grand merci à Caro, Jean et Mac qui nous écrit. Pour les vrais amoureux de la petite balle jaune même. Depuis un an, j'écoute avec grand plaisir les interviews de très grande qualité de Max. Merci. Le vrai plus est que les invités n'hésitent pas à prendre tout le temps pour se confier et à rentrer dans les détails de leur parcours. Le choix des invités est vraiment pertinent et très varié. Ancienne joueur, oula, pardon, ancienne joueuse ou ancien joueur ou encore sur le circuit. Entraîneur, arbitre, journaliste sportif, directeur de tournoi. Toute personne qui fait partie du circuit passe par les questions expertes et variées de Max. Ça fait bientôt 40 ans que je suis avec passion ce sport et c'est un vrai bonheur d'écouter ces podcasts. PS, ton ultime défi, Max, avoir Roger dans ta liste de futurs invités. Alors déjà, un grand merci d'avoir pris le temps de nous écrire toutes ces lignes. Et si tu peux nous filer un coup de main, Mac, pour Roger, on est évidemment preneur. Autre énorme coup de main que vous pouvez nous donner, c'est en parlant du podcast autour de vous. Parce que le bouche à oreille marche très bien pour nous aider à grandir. Alors envoyez votre épisode préféré, abonnez vos potes directement sur leur téléphone et répétez à chaque apéro ou barbecue que vous êtes une légende aguerrie depuis environ un an, un peu plus chaque mardi. Si vous êtes en tournoi cet été ou si vous voulez cirer vos potes en vacances sur un cours de tennis, hein, on a deux formations gratuites qui vont aussi vous régaler. La première, donc c'est le premier lien en description, sert à mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours. Grâce aux 4 clés d'optimisation enregistrées avec notre expert de la stat, Fabs Barreau. Et en deuxième lien, si tu veux arrêter de mouiller en match ou dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100, et c'est le deuxième lien, donc, en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire, lui aussi en lien dans la description. Il nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te surprendre. Un autre big merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur, ce podcast, c'est environ 15 heures de travail par épisode. Et nous soutenir nous encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine. Vous pouvez le faire donc à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Tous les liens sont juste en dessous, dans la description, une fois de plus, vous l'aurez compris. Enfin, si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille, des idées de partenariat ou autres, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora. ZAMORA, merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous les légendes. Encore une fois, bon JO à tous et également merci pour vos bonnes ondes. Ça me touche tous ces messages. Je vous dis à très vite. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.